Le mot français morale vient du latin mores, au pluriel, qui signifie les mœurs, les manières habituelles de vivre, de se comporter. Il existe un équivalent en grec, c'est le mot éthos, qui a la même signification et qui a donné le français éthique. Le mot morale peut cependant avoir deux sens bien distincts, à savoir, premièrement, un sens descriptif qui renvoie à la façon dont les gens se comportent dans les faits, les habitudes, les coutumes, comme par exemple quand on parle de la morale individuelle ou de la morale sociale, et un sens normatif qui renvoie à l'ensemble des valeurs qui sont considérées comme estimables par un ensemble de personnes et qui constituent pour elles des normes ou des règles de vie à respecter. Comme par exemple lorsqu'on parle de la morale chrétienne ou bien lorsqu'on dit que l'on fait la morale à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on fait la leçon à quelqu'un, qu'on lui dicte sa conduite. Autrement dit, on doit distinguer ce que les gens font en réalité et ce qu'ils devraient faire en droit ou en principe, d'après des normes, des règles ou des idéaux. L'une des questions importantes qui se posent en philosophie à propos de la morale, c'est de savoir s'il peut y avoir des modes de vie ou des règles de comportement ayant une valeur universelle, une valeur pour toutes les sociétés humaines et pour toutes les époques. Ou bien, si l'on doit distinguer des morales au pluriel, qui soient à la fois relatives et variables en fonction des sociétés et des époques. En lien avec cette première question, il s'agit également de savoir si les hommes vivent uniquement dans le but de satisfaire des intérêts individuels ou particuliers, que l'on peut qualifier d'égoïstes, ou bien s'ils peuvent vivre également en fonction de certaines normes universelles et altruistes, ayant pour fondement et principe commun le respect de la dignité humaine. Donc, il s'agirait d'une morale universelle ou universaliste. La conception universelle de la morale est commune notamment aux doctrines religieuses, on pense ici au commandement biblique, aime ton prochain comme toi-même, et à certains courants philosophiques comme le socratisme, pensons au dialogue platonicien du Ménon sur la vertu, ou encore au stoïcisme antique, et aussi, pour ce qui est de l'époque moderne, au kantisme. Cette conception universaliste de la morale s'oppose aux morales traditionnelles qui sont généralement basées sur l'honneur et une vision à la fois inégalitaire, hiérarchique et aristocratique de la société. À partir de ces deux conceptions de la morale, nous poserons trois questions. Premièrement, l'homme peut-il faire le mal volontairement? Deuxièmement, faut-il opposer le devoir et le bonheur? Et enfin, les lois de la morale sont-elles strictement nécessaires? Première question, l'homme peut-il faire le mal volontairement? Cette question nous renvoie à une célèbre phrase de Socrate dans le dialogue écrit par Platon qui s'intitule Ménon. Je cite, Nul n'est méchant volontairement. La phrase célèbre de Socrate exprime une thèse paradoxale à première vue, puisqu'elle semble aller à l'encontre donc de l'expérience immédiate. Dans la vie de tous les jours, en effet, nous expérimentons des situations où il semble bien que les hommes commettent des actes nuisibles en toute connaissance de cause. Que veut donc dire Socrate par cette phrase énigmatique? Est-ce que le philosophe pécherait par naïveté? En réalité, Socrate ne nie pas que les hommes commettent des actes mauvais, c'est-à-dire nuisibles aux autres ou à eux-mêmes, mais ce qu'il dit, c'est que le fait de commettre de tels actes n'est jamais intentionnel ou volontaire. Autrement dit, un homme qui cause du tort à un autre ou à soi-même ne le fait jamais volontairement dans la mesure où il ne se rend pas véritablement compte de ce qu'il est en train de faire. Un homme qui cause un préjudice croit souvent agir en vue d'un bien, ne serait-ce d'abord que pour faire son propre bien. Ainsi, un voleur pense qu'il pourra profiter de son larcin à condition de ne pas se faire prendre. Et il pourra même penser que le tort qu'il cause à sa victime n'est pas vraiment un mal, ou n'est pas un si grand mal, en estimant qu'il a de bonnes raisons d'agir de la sorte. Par exemple, parce que sa victime elle-même n'est pas sans reproche, ou parce qu'il a le sentiment de vivre dans une société injuste. En somme, Socrate veut nous dire que la cause du mal n'est pas la méchanceté, mais plutôt l'ignorance, et en particulier l'ignorance concernant la nature véritable, tant du bien que du mal. Ainsi, la lutte contre le mal consiste, pour Socrate, à tenter de définir, au moyen de la réflexion philosophique, ce qu'est la véritable nature du bien et en quoi consiste l'action vertueuse, l'action tournée vers le bien. C'est là notamment l'objet du dialogue du Ménon déjà cité. Toutefois, cette thèse, qu'on pourrait qualifier à la fois d'optimiste et d'intellectualiste, présuppose que l'homme serait un être naturellement tourné vers le bien et qu'il lui suffirait d'exercer sa raison afin de déterminer le but vers lequel il doit orienter son action. Autrement dit, il suffirait de savoir ce qu'est le bien pour vouloir le faire. Il suffirait de connaître la vraie nature du bien pour être quelqu'un qui fait le bien. Or, la question de savoir s'il ne pourrait y avoir inscrite au cœur de l'homme une volonté mauvaise, une volonté de faire le mal pour le mal, ne peut manquer de se poser tant la réalité du mal commis par les hommes semble une vérité incontournable. On trouve ainsi dans la pensée chrétienne l'idée que le mal serait ancré en l'homme de façon originelle, suite à la faute commise par Adam dans le jardin d'Éden. C'est la doctrine dite du péché originel. On trouve également chez le philosophe Emmanuel Kant l'idée qu'il existerait en l'homme ce qu'il appelle un mal radical, c'est-à-dire un mal profondément ancré, enraciné dans notre nature et inextirpable. Toutefois, le philosophe allemand prend bien soin d'expliquer que la volonté humaine ne saurait être considérée comme absolument mauvaise, c'est-à-dire que le mal ne peut être le mobile de toutes nos actions, sans quoi nous serions des êtres diaboliques ou démoniaques, et aussi, en un sens, des êtres irresponsables du mal que nous faisons. Ainsi, le mal est radical en l'homme dans la mesure où l'action mauvaise s'offre à nous en permanence comme une possibilité d'agir sans qu'elle s'impose à nous de manière nécessaire. Pour Kant, la liberté individuelle d'agir demeure au fondement de la responsabilité morale et elle conditionne la valeur de nos actions, que celles-ci soient considérées comme bonnes ou comme mauvaises. Deuxième question, faut-il opposer le devoir et le bonheur? Les philosophies morales de l'Antiquité peuvent être définies comme des pensées eudémonistes. Ce mot est formé sur le grec eudémonia qui signifie précisément le bonheur. C'est-à-dire que ces pensées morales antiques ont pour but la recherche et l'obtention du bonheur humain durant la vie terrestre. On peut évoquer ici la philosophie morale d'Épicure qui écrivait dans la lettre à Ménécée, je cite, « Le bonheur est le commencement et la fin de la vie heureuse et il est le premier des biens naturels. Il est au principe de nos choix et refus. Il est le terme auquel nous atteignons chaque fois que nous décidons quelque chose, avec comme critère du bien notre sensation. » Or, on peut affirmer que le démonisme ainsi défini est commun d'ailleurs à Socrate, à Platon, à Aristote, ou bien encore à la philosophie des stoïciens. Dans chacun de ces grands courants de la pensée antique, il ressort en effet que le principal devoir de l'homme est de rechercher et d'atteindre le souverain bien, ce que les Romains appelaient « summum bonum », qui procure à l'homme à la fois la sagesse, la vertu et le bonheur. Bien sûr, il convient d'ajouter que ce devoir ne peut être correctement rempli que par des hommes capables de réfléchir, donc des philosophes de préférence, ce qui n'est peut-être pas donné évidemment à tout le monde. À partir de cette observation, nous pouvons dès lors douter de la possibilité pour chaque homme d'atteindre simultanément la sagesse, le devoir et le bonheur en cette vie. Selon Emmanuel Kant, encore lui, je cite, « Nul impératif n'est donc possible qui soit susceptible de commander de faire ce qui rend heureux, parce que le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. » Ce que le philosophe veut dire, c'est que le bonheur ne saurait être ni le but conscient, ni encore moins le devoir de tout homme, dans la mesure où il est impossible à chacun de déterminer de façon rationnelle ce qui est susceptible de le rendre heureux. La morale, ajoute encore Emmanuel Kant, n'est pas la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes d'être heureux. Bien plus, Kant considère que le devoir et le bonheur sont deux exigences radicalement distinctes et que le respect du devoir est le seul impératif qui s'impose à l'homme, quelles que puissent être les conséquences concernant le bonheur de l'individu. Troisième question. Les lois de la morale sont-elles strictement nécessaires? Je m'appuierai là encore sur une citation d'Emmanuel Kant. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. En définissant ainsi le devoir, Kant souligne son caractère strictement nécessaire. Il s'impose à nous et ne nous laisse en un sens aucun choix. La nécessité désigne en effet le fait qu'une chose, un être ou une action ne peut pas ne pas être ce qu'elle est, qu'elle ne peut pas ne pas avoir lieu. Toutefois, cette absence de choix est relative. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous plier à la loi morale si nous voulons bien agir. Mais dans l'absolu, nous avons toujours le choix, car nous pouvons décider de nous écarter du devoir de la loi morale pour faire le mal. Autrement dit, il convient de distinguer la nécessité morale de faire quelque chose, qui définit ce qu'on appelle une obligation, d'une part, et la nécessité physique de faire quelque chose, qui définit ce que nous appellerons la contrainte, d'autre part. Car c'est seulement cette dernière, la contrainte, qui nous ôte entièrement notre liberté de choix et donc aussi notre responsabilité, tandis que l'obligation, en nous laissant la liberté de nous soumettre à elle ou non, nous laisse entièrement libres et responsables de nos actes. Dans le langage kantien, on dira que l'obligation relève de l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire la soumission de la volonté à sa propre loi, tandis que la contrainte relève de l'hétéronomie, c'est-à-dire la soumission de la volonté à une loi étrangère. Or, une volonté autonome désigne, selon Kant, la même chose qu'une volonté libre. C'est pourquoi, bien qu'étant soumise à la nécessité morale du devoir, la volonté peut néanmoins rester parfaitement libre, selon le philosophe allemand. Ainsi, on peut dire que le devoir nous impose une nécessité stricte, quoique non contraignante, d'agir de façon moralement bonne. Concluons. La philosophie morale cherche à déterminer les critères de l'action bonne ou vertueuse. Or, toute la question est de savoir si ces critères peuvent être définis de façon abstraite et universelle, au moyen de la seule raison, ou bien si ces critères dépendent des intérêts particuliers propres à chacun d'entre nous, ou bien à tel ou tel groupe social. Autrement dit, il s'agit de savoir si la morale relève d'un ensemble de règles invariables qui définissent nos devoirs, ou bien si elle relève de la recherche individuelle ou collective d'un bonheur dont la définition peut varier selon les circonstances, les lieux et les époques.